Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous écoutez Radio Clip.
Radio Clip.
Vous êtes sur Radio Clip.
Radio Clip.
Vous écoutez Radio Clip.
La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.
Bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Clip. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale Haïti avec la classe de CM2B de l'école Évangile et de leur envoyé spécial Alain de Valpo, qui est allé pendant 7 semaines en Haïti pour leur recueillir des informations. Le premier reportage parle de la géographie d'Haïti et de sa situation dans le monde. Alors Mehdi, tu peux nous parler un peu plus d'Haïti ?
Mais bien sûr, je veux vous parler d'Haïti. Haïti est situé dans les Antilles, qui sont un grand archipel s'étirant sur 3500 km. Un archipel est un groupe d'îles. Au nord, Haïti est baigné par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes. Haïti est situé sur l'île d'Hispaniola qui est divisée en deux pays, République dominicaine et Haïti. Le drapeau d'Haïti existe depuis 1803. Il est bleu et rouge et porte la devise « L'union fait la force ».
Haïti est situé dans les Antilles. Chelsea, il doit faire chaud là-bas.
Eh oui, Haïti est à 8000 km de la France et aussi situé dans l'hémisphère nord, mais assez près de l'équateur, dans la zone chaude du globe. Donc, en effet, les températures y sont chaudes toute l'année. Comme dans tous les pays dont le climat est tropical, il y a une saison sèche et une saison des pluies. Mais attention, il peut y avoir parfois des ouragans et les vents peuvent souffler plus de 200 km/h et dévaster les côtes.
Nassira, est-ce que tu peux me donner d'autres informations sur le pays ?
Eh bien, en Haïti, il y a 9 876 000 habitants, mais seulement 55% sont alphabétisés. La superficie du pays est de 27 750 km². Si vous voulez aller en Haïti, le prix du billet d'avion est d'environ 800 euros. Quand vous arriverez à l'aéroport, vous serez peut-être accueilli par des musiciens comme l'a été notre envoyé spécial. En Haïti, les personnes parlent deux langues, le créole et le français. La monnaie s'appelle la gourde. 1 euro en France, c'est 50 gourdes en Haïti. Dernière information pour les voyageurs. Entre la France et Haïti, il y a 6 heures de décalage horaire. Donc, quand il est midi à Paris, il est 6 heures du matin à Port-au-Prince. Le soleil se lève.
Maintenant, nous allons demander à Sekou et à Pierre Evans de nous parler un peu plus de l'environnement en Haïti. Haïti est en zone tropicale. Il doit y avoir beaucoup de forêts parce qu'il fait chaud et humide.
C'est vrai qu'il y a longtemps, Haïti possédait de majestueuses forêts. À l'arrivée de Christophe Colomb qui a découvert Haïti en 1492, 80% du pays était recouvert de végétaux. Les colons ont détruit une grande partie des forêts pour planter de la canne à sucre, du café, du cacao et tout ce qu'on ne trouve pas en Europe. Ils vendaient ensuite ces produits, mais aujourd'hui, la végétation occupe seulement 2% du pays.
Écoutons maintenant le témoignage de Daniel Millet, qui travaille pour une ONG et qui nous parle de la déforestation.
Bonjour, donc David Millet, je suis coordonnateur de l'organisation non gouvernementale AVSF, Agronome et Vétérinaire sans frontières, en Haïti. AVSF est très préoccupé par les questions de déforestation en Haïti, parce que c'est un fléau, on va dire, enfin une catastrophe presque permanente qui touche tout le pays. Il faut savoir qu'Haïti est avant tout un pays de montagne, composé à plus de 70% de montagne, avec des pentes souvent très élevées, ce qui favorise l'érosion, c'est-à-dire le glissement des terres ou l'essivage des terres, qui fait que quand la pluie tombe souvent de manière très forte, eh bien, la terre ruisselle et termine dans la rivière, dans les rivières qui forment des ravines et ensuite se jettent dans la mer. Année après année, le sol qui permet le développement des plantes et des arbres, a tendance à descendre, dévaler les pentes et se retrouver dans la mer. Alors, cette érosion des sols, et donc, elle n'a pas toujours eu lieu. parce que quand le sol est couvert d'arbres, quand il y a une couverture végétale abondante, et donc des arbres en grande quantité, la pluie, quand elle tombe, elle les ralentit par le feuillage des arbres. Aujourd'hui, en Haïti, il y a de moins en moins d'arbres. On parle de 2% de couverture végétale, alors qu'anciennement, on était à plus de 80%. Il faut imaginer l'époque de Christophe Colomb, quand il a découvert l'île, c'était une île luxuriante, recouverte d'arbres, de végétation. Et on a encore beaucoup d'endroits comme ça en Haïti, qui rappellent cette époque, mais aussi beaucoup de zones où le déboisement est très important.
Comme vous l'entendez dans le reportage, en fait, en 50 ans à peine, le paysage a complètement changé. Ce n'est plus de grandes forêts vertes, mais plusieurs zones presque entièrement rasées. Heureusement, il reste quand même de magnifiques espèces végétables en Haïti, comme le cocotier, le manguier, le palmistre, l'arbre à pain, le papayer, le café, l'oranger ou bien le calebassier.
Nous allons passer au reportage sur l'histoire d'Haïti.
En arrivant à l'aéroport de la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, le premier nom que vous entendez est Toussaint Louverture, car l'aéroport porte le nom d'un grand personnage historique haïtien.
Il y a environ 300 ans, les pays les plus riches d'Europe allaient dans les villages africains pour chercher des hommes noirs et les échangeaient dans les colonies contre des produits tropicaux, coton, cacao, tabac. Les esclaves étaient considérés comme des objets. Ils étaient maltraités, enchaînés et vendus dans des marchés. Puis, les maîtres les choisissaient et les esclaves travaillaient dans des champs de canne à sucre, de café ou de coton.
Mais alors, Toussaint Louverture était un maître ou un esclave ?
Toussaint Louverture était un esclave, mais il était très spécial, car il savait lire et écrire. C'était son premier maître qui lui avait enseigné. Contrairement aux autres esclaves, lui ne travaillait pas dans les plantations, mais il dirigeait les autres esclaves ou servait de cocher.
En France, en juillet 1789, éclate la Révolution française. Le 26 août 1789, les révolutionnaires rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le premier article proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais dans les colonies, l'esclavage n'est pas encore aboli.
En Haïti, une révolte commence. Le 23 août 1791, elle est menée par Toussaint Louverture. L'abolition de l'esclavage est établie en 1794. Toussaint Louverture crée le premier État noir au monde. Mais en 1802, Napoléon Ier envoie un général reconquérir l'île et fait arrêter Toussaint Louverture qui est emprisonné et meurt en France.
Et maintenant, nous comprenons mieux pourquoi Toussaint Louverture est un personnage si important pour Haïti.
Et oui, c'est même un héros.
Écoutons d'ailleurs M. Emma répondre à la question de notre envoyé spécial qui lui demande si Toussaint Louverture représente encore un symbole pour les Haïtiens.
Pas seulement pour les Haïtiens, et je dirais pour tous les peuples noirs, surtout qui est originaire du Bénin. Et au Bénin, il y a une statue de Toussaint Louverture, puisque son grand-père était roi au niveau du Bénin, était un dignitaire au niveau du Bénin. Et si on va à Ouida, au Bénin, on va trouver une statue de Toussaint Louverture. Et on va au Québec, dans la ville de Montréal, on trouve une place Toussaint Louverture. Dans la ville de Québec, on trouve une statue de Toussaint Louverture. Auguste Comte, dans son calendrier, a inséré Toussaint Louverture comme pas seulement un héros, pas seulement un personnage haïtien, mais un personnage à caractère mondial. Toussaint n'appartient pas seulement à Haïti, mais appartient à l'humanité tout entière pour sa contribution à la lutte, pas seulement pour l'indépendance d'Haïti, mais je dirais contre l'esclavage, mais pour la dignité humaine. Donc je pense que Toussaint Louverture dépasse les frontières d'Haïti.
Dans le prochain reportage, Anis, Denis et Mohamed vont vous en dire plus sur le terrible séisme du 12 janvier 2010.
Le 12 janvier 2010, un séisme d'une puissance phénoménale a dévasté Haïti. Entre les 250 000 morts et 1,3 million de sans-abri, le pays n'est pas prêt de retrouver son état normal. Alors qu'Haïti était un des pays les plus pauvres du monde, les dégâts matériels n'ont pas arrangé les choses. Écoles, hôpitaux, bibliothèques nationales et même le palais présidentiel ont été complètement détruits. Et en plus, quelques jours après le séisme, une épidémie de choléra due aux mauvaises conditions d'hygiène et au manque d'eau potable a frappé le pays. Aussi rapidement que possible, les ONG de tous les pays sont venues porter secours aux Haïtiens. Mais le pays aura beaucoup de mal à se reconstruire.
Notre envoyé spécial a rencontré Aurélie, une Française qui vit en Haïti et qui était présente lors du séisme. Écoutons son témoignage.
J'étais à leur rapport au prince dans mon bureau puisque je travaillais à l'époque pour l'Agence française de développement. Donc dans mon bureau assez spacieux, tranquillement au téléphone avec une personne du ministère de l'Éducation avec qui je travaillais à l'époque. C'était en fin d'après-midi, donc c'était un petit peu avant 5h, à 5h moins 3 minutes plus précisément. Et la plupart des personnes donc, du bureau étaient parties, on n'était plus que quelques responsables de projet à finir un peu les dossiers, puis à travailler tranquillement chacun dans son bureau.
Au début ça a tremblé, tu as compris ce qui se passait ?
Ben, ça a été assez progressif en fait, ça a tremblé petit à petit et au début je pensais que c'était, comme il y avait des constructions à côté, c'était toujours les camions qui passaient, sauf que c'est allé en s'intensifiant. J'étais dans une conversation au téléphone, donc j'ai pas porté beaucoup attention jusqu'à ce que ça s'intensifie jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus vraiment ce qui se passe. Et en fait quand j'ai réalisé... puisque je n'ai jamais vécu de tremblement de terre, et je me suis dit, ça peut être un tremblement de terre. J'étais accrochée à mon bureau en train de faire, on va dire, de bouger latéralement d'un mètre quasiment, à l'horizontale. Une fois dehors, la première réaction, c'était donc de nous regarder. J'avais un autre jeune collègue français. On s'est regardé et avec notre directeur, on s'est dit « j'arrive pas à y croire, c'est pas possible ». On sort à peine du bureau, donc on sait pas ce qui se passe dehors, mais on se dit « il vient de se passer quelque chose de grave et on a du mal à y croire ».
Tu n'as pas encore alors conscience de ce qui s'est passé autour et des dégâts notamment provoqués par le séisme ?
Non, mais quand j'ai quitté mon bureau en fait, puisque c'était un bureau à Paco, un petit peu dans les hauteurs de Port-au-Prince, au moment où je suis sorti de mon bureau, j'ai tourné la tête, j'avais une vue en fait sur Port-au-Prince et j'ai vu ce nuage de fumée s'élever de la ville qui est en fait la poussière de toutes les pierres, en tout cas de tout le ciment, de toutes les constructions qui se sont effondrées. Il y a une poussière qui s'est élevée progressivement sur le bas de la ville. Et c'est une image assez chaotique qui nous font réaliser, même si on n'est pas encore sorti dans les rues, qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Je pense que dans tous les cas, tout le monde a fait preuve d'un courage exceptionnel puisque la situation était tellement difficile et catastrophique qu'il a fallu à tous, je pense, beaucoup de courage pour pouvoir continuer à agir, enfin au moins faire quelque chose et puis peut-être au moins même juste se déplacer.
Quelle expérience exceptionnelle. Maintenant, Denis, est-ce qu'il y a déjà eu un séisme plus puissant que celui d'Haïti dans le monde ?
Eh oui, le séisme d'Haïti a été très puissant, mais il y en a eu plein d'autres dans le monde et même des plus puissants. Par exemple, au Chili, en 1960, a lieu le séisme le plus puissant connu sur Terre. Il a atteint 9,5 sur l'échelle de Richter. Au Japon, en 2011, un séisme de 8,9 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami, a dévasté le pays. En 1985, un séisme très puissant a ravagé Mexico. Le séisme a détruit 400 immeubles de la ville et 9000 personnes sont mortes dans la catastrophe.
Comment est-ce qu'on fait pour mesurer les séismes ?
Les séismes peuvent être dévastateurs, mais peuvent aussi être tellement faibles qu'on ne peut les sentir que grâce à un appareil spécial, le sismographe. Cet appareil est relié à deux aiguilles qui, pendant un séisme, trace sur du papier des ondulations en fonction des secousses de la Terre. Pour mesurer la magnitude d'un séisme, un scientifique américain nommé Charles Richter a créé une échelle qui va de 0 à 9 et plus. C'est en fonction des dégâts matériels et humains que l'on donne une note au séisme. À partir de 6,9, les dégâts commencent à être importants.
Mais au fait, pourquoi y a-t-il des séismes ?
La Terre est formée d'un noyau interne, d'un noyau externe, d'un manteau et d'une croûte terrestre formée de 12 plaques. Un séisme se produit quand deux ou plus de ces plaques s'affrontent. Au bout d'un moment, l'une passe au-dessus de l'autre, créant ainsi les séismes. Quand ces plaques s'écartent, cela crée des éruptions volcaniques sous-marines. On appelle l'endroit au-dessus du foyer l'épicentre. Le foyer est l'endroit exact où les deux plaques s'affrontent. C'est l'endroit où les secousses sont les plus fortes. Par exemple, l'épicentre du séisme d'Haïti était situé vers Pétionville, près de Port-au-Prince.
Après le séisme, beaucoup de gens ont vécu dans des camps de réfugiés. Zinedine et Pierre Evans vont nous expliquer qu'est-ce qu'un camp de réfugiés.
Quand un pays est touché par une catastrophe naturelle ou bien une guerre ou une famine, des camps sont installés par des associations comme des ONG.
Alors, c'est quoi une ONG ?
Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Ce sont souvent des associations humanitaires. Elles aident les hommes.
Que font les ONG ?
Elles aident les victimes. Les nombreuses personnes qui travaillent dans ces camps sont des médecins, des instituteurs, des ouvriers. Et vous savez, après le séisme, il y a eu plus d'un million de réfugiés en Haïti.
Comment se passe la vie dans ces camps ?
Tous les réfugiés vivent sous des tentes puisqu'ils n'ont plus de maison. Ils vivent dans ces abris de fortune, parfois pendant plusieurs années. Pour ce qui est de la nourriture, dans les camps de réfugiés, les stocks de nourriture sont enfermés. Il n'y a pas de produits frais car ils ne se conservent pas bien. Les gens mangent plutôt des haricots, des lentilles, du riz, c'est-à-dire des produits qu'on peut stocker. L'eau est vitale, les réfugiés ont droit à 20 litres d'eau par jour, alors que les Français en utilisent en moyenne de 150 à 500 litres d'eau par jour.
Au niveau de la santé, les réfugiés qui ont des maladies contagieuses comme le choléra par exemple sont isolés le temps d'être soignés. Il y a aussi des infirmeries.
Pour l'éducation, il y a des écoles qui sont installées dans les tentes pour que les enfants continuent à apprendre et à jouer.
Écoutons l'écrivain Yannick Lins nous parler de ses ateliers culturels dans les camps.
J'avais déjà monté une petite structure où je travaillais avec des adolescents. En quoi consistent les activités ? On choisit un thème d'intérêt général, on fait venir un spécialiste qui sensibilise des jeunes que je prends souvent de milieux sociaux différents pour les faire travailler ensemble. Et puis, on les initie au maniement de la caméra, à l'écriture d'un petit scénario, au montage, et ils font eux-mêmes des petits documentaires de 5-10 minutes sur ce sujet donné. Donc après le tremblement de terre, on m'a approché, on me dit « mais est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose ?» Et du coup, je me suis rapproché d'un ami qui est psychologue et je lui dis « est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire une thérapie avec les enfants ?» On est parti. Mon ami qui fait l'initiation à la vidéo, ce psychologue et moi, et nous sommes partis et nous avons organisé un atelier avec des adolescents dans le plus grand camp de Port-au-Prince à l'époque, c'était le Pétionville Club. Et là, nous avons donc fait cet atelier sur le même modèle que ce que je faisais avant. Et les adolescents ont fait deux petits documentaires sur leur vie dans le camp. Qu'est-ce qu'a été leur tremblement de terre pour eux et leur vie dans le camp ? Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un camp ?
Il y a aussi l'ONG Bibliothèques sans frontières qui installe des bibliothèques dans les camps.
En parlant de Bibliothèques sans frontières, Brandy et Catherine vont vous expliquer comment fonctionne cette ONG.
Oui, Nisrine. Alain de Valpo a rencontré Céline, la responsable de BSF à Port-au-Prince. Et c'est pour cela que nous avons voulu en savoir plus sur l'association. C'est une association qui collecte et envoie 100 000 livres chaque année dans 15 pays francophones. Ils ont aussi 500 bénévoles à travers le monde. Ils forment des bibliothécaires et développent l'accès à Internet. BSF fait aussi des activités, lire des livres, pour les enfants qui ont perdu un membre de leur famille ou ont été choqués par le séisme. Le but précis de BSF, c'est le développement social et culturel par le livre.
C'est quoi le développement par le livre ?
C'est aider les enfants et les adultes à apprendre des choses grâce à la lecture, mais aussi à avoir du plaisir à lire.
Qu'a fait BSF en Haïti ?
Après le terrible séisme du 12 janvier 2010, Bibliothèque Sans Frontières s'est engagée à aider les enfants à lire ou à assister à des lectures publiques et scolaires. Certaines personnes de l'équipe de BSF parlent plusieurs langues pour traduire les livres aux personnes qui ne parlent pas français.
Alors, elle a construit des bibliothèques en Haïti ?
Oui, l'association a installé des bibliothèques dans des camps et créé 3 bibliothèques. Ce sont des bibliothèques aménagées dans des minibus haïtiens qui roulent dans la ville de Port-au-Prince. Des gens peuvent monter dans ces minibus pour lire des livres. Il y a aussi les boîtes à histoire.
Céline, la responsable de BSF, va nous présenter le projet de la boîte à histoire.
Alors, la boîte à histoire, c'est une espèce de kit bibliothèque qui se trouve dans une cantine métallique où donc Bibliothèque Sans Frontières, en partenariat avec l'UNICEF, a développé un kit d'animation donc pour faire de l'animation autour du livre et a sélectionné avec des pédopsychiatres et des bibliothécaires des livres d'Afrique francophone en français et en créole pour faire tout plein d'animations autour du livre. Donc on a appelé ça donc la fameuse boîte à histoire.
Le travail de BSF est très utile pour les Haïtiens et surtout pour les enfants. D'ailleurs, cette année, nous avons travaillé sur les droits des enfants car nous avons entendu parler des restes avec. Les restes avec sont des enfants qui viennent de familles pauvres et qui sont envoyés par leurs parents dans des familles plus riches. Dans ces familles, les restes avec font le ménage, la cuisine et d'autres tâches domestiques. En échange, ils sont nourris et logés. Ils sont souvent maltraités et ne vont pas à l'école. Il y a plus de 300 000 enfants haïtiens dans cette situation. Les trois quarts sont des filles et 10% d'entre eux ont entre 7 à 10 ans. Voici un reportage sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi la situation des restes avec est intolérable.
Notre rubrique va vous présenter la Convention internationale des droits des enfants. C'est un texte officiel écrit entre tous les pays du monde pour que chaque enfant ait des droits. Le premier article de ce texte est la définition d'un enfant. C'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Maintenant, nous allons vous citer des articles de la Convention.
L'article 7, c'est le droit à un nom et une nationalité. Dès ta naissance, tu as le droit à un nom, une nationalité et dans la mesure du possible, de connaître tes parents et d'être élevé par eux. Ce qui est important dans l'article 7, c'est que avoir un nom et une nationalité, ça sert à savoir qui on est, à être quelqu'un d'unique, à connaître sa culture et la partager. L'article 19, c'est le droit à la protection contre les mauvais traitements. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon, de négligence, de mauvais traitements, y compris la violence sexuelle. Ce qui est important dans l'article 19, c'est que c'est essentiel de ne pas être maltraité et d'être protégé pour les enfants. L'article 2, le droit à la non-discrimination. Les États ne doivent pas violer tes droits et doivent les faire respecter pour tous les enfants, quelle que soit ton origine, ton sexe ou ta couleur de peau.
L'article 24, le droit à la santé et aux services médicaux. Cet article explique que tu as le droit d'être dans le meilleur état de santé qui soit et que tu dois être toujours soigné. Il explique aussi que les États doivent développer les soins essentiels comme l'hygiène, la nutrition, la lutte contre les maladies ou la fourniture d'eau potable. Sans soins médicaux, les enfants peuvent être gravement malades. La protection de la santé est essentielle pour l'avenir de l'humanité.
L'article 13. Le droit de t'exprimer librement. Tu as le droit de t'exprimer librement. Tu as le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations. Mais il y a des limites à la liberté d'expression. Tu dois respecter les droits et la réputation des autres. Tu ne peux pas mettre la société en danger. Les enfants ont aussi le droit de s'exprimer et de proposer des idées. Ils peuvent même apporter leur idée aux élus qui dirigent le pays. Une délégation d'enfants peut apporter leurs propositions au Sénat pour que les sénateurs les étudient.
Pour conclure ce reportage, chaque enfant n'est pas totalement libre de ses actes, mais il est quand même libre d'avoir une religion, une culture et une origine différente des autres. Nous avons appris que les enfants ont le droit de s'exprimer librement, et ce droit est très important. Il nous a permis de préparer cette émission, par exemple. Pour terminer notre édition spéciale Haïti, voici quelques conseils de lecture pour vos vacances. Sarah et Nesrin, parlez-nous du roman de Marie Condé, Rêve amer, qui nous a beaucoup plu.
Ah oui, ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire de Rosemée. Elle a 13 ans et elle doit quitter sa famille car ses parents l'envoient à Port-au-Prince pour travailler. Dans le bus, elle rencontre une amie qui s'appelle Lisa et qui vit la même situation qu'elle. Elle arrive à Pétionville, un quartier de Port-au-Prince, et elles vont chacune chez leur bonne amie, c'est-à-dire les dames chez qui elles vont travailler. Mais la bonne amie de Rosemée la maltraite. Elle est violente, elle l'insulte et elle lui donne beaucoup de corvées.
Donc Rosemée s'enfuit et elle trouve du travail, dans un restaurant. Mais là aussi, son patron est violent. Alors Rosemée s'enfuit encore une fois. Elle trouve Lisa et elles sont sans abri. Puis Lisa propose à Rosemée de partir à Miami aux États-Unis pour trouver un meilleur travail.
Est-ce que Rosemée va accepter de faire ce dangereux voyage et que lui arrivera-t-il?
Vous devez lire ce roman si vous voulez connaître la suite de l'histoire.
Merci pour ce résumé.
Vous pouvez aussi lire les nombreux contes de Mimi Barthélémy, une grande écrivaine haïtienne qui nous a fait rire et rêver avec ses contes comme Quand joue la tortue d'Haïti, Cabré, cheval et tigre, Crapaud et la clé des eaux ou encore Le cheval d'Icotea et la tortue d'eau douce. Si vous voulez en savoir plus sur Haïti, lisez bien sûr l'histoire d'Haïti racontée aux enfants.
Nous vous conseillons aussi un roman historique, Deux graines de cacao, dont l'auteur est Evelyne Brizou-Pellen. Ce roman se passe au début du 19e siècle. Un enfant part en Haïti dans un bateau rempli d'esclaves sans le savoir. Il cherche ses vrais parents.
Merci de ces conseils de lecture et merci à tous pour vos informations précieuses sur Haïti. Cette émission touche à sa fin, hélas. Merci de nous avoir suivis. C'était le CM2B de l'école Évangile à Paris. Au revoir.
Nous sommes les enfants d'Haïti, du plus grand jusqu'au plus petit. Nous courons les rues et les champs, travailler d'aider nos parents. Le soir nous rentrons fatigués. Yeah.
Radioclip, c'est fini pour aujourd'hui.
Ah bon ?
Le Padawan a dit vrai.
L'émission a été produite par Gwenaëlle Guillaume
et réalisée par Amaury Perard.
C'était très bien. C'était très bien.
Merveilleuse intelligence que celle d'un enfant.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.
Sur le site de Radioclip, CLYPE.
À bientôt.